Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profond encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Les gens sont les mêmes dans la lecture que dans la vie. Égoïste, avide de plaisir et inéducable. C'est de Amélie Nothomb. Pas de doute, vous êtes bien sur Canal M et c'est l'émission À livre découvert.
La table des matières.
Alors bonjour mes amis, Clotilde Seille en votre compagnie et non seulement Clotilde mais aussi ses invités. J'ai deux personnes autour de moi, une personne au téléphone, la table des matières aujourd'hui. André Vincent sera des nôtres pour cette première émission de l'année. Bonne année à tout le monde. Vous allez l'entendre celle-ci encore et encore, mais comment peut-on faire autrement? Donc je vais m'entretenir avec André et Vincent autour d'un livre de Boris Cyrulnik. Je reçois Pascal Navarro, je suis très très heureuse qu'elle ait accepté d'être la première en cette année 2015. Également aujourd'hui à l'émission, je reçois le bénévole du jour qui est Thibaut Temmerman. Il y aura le classique de la semaine. En fait c'est un faux classique, je me suis dit « Oh, 7 janvier !» les résolutions, nanana. Et comme on vient de ressortir ce livre formidable de Thomas d'Ansembourg qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai », j'ai pensé que ce serait formidable comme première résolution de l'année. Et puis, il y aura aussi la page de littérature de bouche à oreille. Je vous présente un extrait du livre de Michaël Delisle, « Le feu de mon père », qui sera présenté la semaine prochaine par Jacques Tremblay, le bénévole qui l'a lu ici, chez Vues et Voix. Et nous évoquerons le bicentenaire de la mort du marquis de Sade et nous finirons bien évidemment cette émission par quelques titres en rafale.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Et je reçois en ce début d'année, je l'avais reçu pour le début de la saison 2014-2015. Il était normal que je le reçoive en ce début d'année 2015. André Vincent, bonjour André.
Bonjour Clotilde.
Vous qui présidez toujours et encore à la destinée du SQLA, du Service québécois du livre adapté, je ne sais jamais si je vous présente bien ou pas et ça m'agace.
Bah, c'est une bonne façon.
C'est une bonne façon.
Je suis chef des services adaptés en fait et donc le Service québécois du livre adapté, c'est un des gros morceaux dont je suis responsable, bien sûr.
Et André, il y a une question qui me brûle les lèvres avant qu'on parle de ce livre dont vous voulez partager la lecture aujourd'hui, parce que c'est une question qu'on me pose et qu'on vous pose souvent. Comment se fait-il que les noms des lecteurs ou des moniteurs de Vues et Voix ne soient jamais prononcés? Les non-voyants ne savent pas qui lit les livres qu'ils vont chercher chez vous. Pourquoi?
Bon, en fait, vous voulez faire référence au fait qu'on ne voit pas le nom des narrateurs au catalogue, puisque bien sûr, quand quelqu'un écoute un titre, à la fin de l'ouvrage, on mentionne le nom des personnes qui ont contribué. Mais le fait qu'on ne l'ait pas mis au catalogue chez nous, c'est simplement pour, je dois dire, par choix, on a voulu éviter que certains lecteurs se privent de très bonnes lectures en faisant une sorte de censure parce que c'est une voix d'homme, c'est une voix de femme, celui-là ou celle-là, je l'ai moins aimé. Bien sûr, on peut comprendre que ça puisse arriver, mais je crois que en évitant de donner cette référence-là, ben on permet à tout le monde de découvrir des choses très intéressantes.
Oui. Un petit peu comme les auditions d'ailleurs qu'on appelle à l'aveugle dans les orchestres symphoniques maintenant, où les gens auditionnent derrière un rideau pour qu'on ne voit pas entre autres si c'est un homme ou une femme qui joue. C'est une très bonne...
Sans rien enlever au travail essentiel de nos bénévoles,
Non, bien sûr.
Nos bénévoles lecteurs, Ce qu'on veut transmettre à nos usagers, c'est le contenu des ouvrages,
oui,
essentiellement.
Bien sûr.
Ce qui est le rôle d'un livre adapté.
Alors, maintenant, parlons bouquins, parlons littérature. Vous en dévorez beaucoup dans l'année, André Vincent. Et cette fois-ci, quel est votre choix et pourquoi?
Cette fois-ci, j'ai choisi de vous parler d'un ouvrage de Boris Cyrulnik, autobiographie d'un épouvantail. Vous savez, souvent on lit pour la détente, on veut se reposer, relaxer après une journée de travail et tout ça. Mais parfois on aime lire aussi pour apprendre, pour découvrir et peut-être même pour se poser certaines questions. Oui. Alors le livre que je propose aujourd'hui, ben, est de ceux qui nous font nous poser des questions et qui nous remuent pas mal, je crois. Moi, ça m'a remué beaucoup.
Et c'est un livre au témoin d'un doute, parce que je suis évidemment... moi, je ne l'ai pas lu personnellement, mais j'ai lu énormément sur le sujet depuis que je sais que vous nous en parlez. Il est beaucoup question de blessures, il est beaucoup question de résilience. C'est le mot qui revient le plus souvent dans ce livre-là de Boris Cyrulnik.
Tout à fait. La caractéristique importante de Boris Cyrulnik, c'est lui qui nous a beaucoup... initié et qui a passé sa vie, il continue à parler de résilience. Dans cet ouvrage dont je parle aujourd'hui, Boris Cyrulnik est allé à la rencontre de grands blessés de la vie pour toutes sortes de raisons. Et pour Boris Cyrulnik, et je pense qu'il a tout à fait raison, on a tous dans nos vies à rencontrer, à faire face à un moment donné à des pertes, à de l'adversité, à des deuils des moments plus ou moins difficiles. Et là, on doit développer une stratégie pour s'adapter à ces changements-là. Il y en a qui vont opter pour la stratégie de la victime. Bon, ils vont choisir d'être victime pour le reste de leur vie ou pour bien longtemps. Alors que d'autres vont plutôt profiter de cette occasion-là pour repartir à neuf, pour se reconstruire. Et c'est de tout ça que Boris Cyrulnik nous entretient dans son essai. Autobiographie d'un épouvantail, pourquoi? Parce que souvent les personnes qui ont subi des blessures, qui ont vécu des tragédies importantes, aux yeux des autres, ça devient des épouvantails. Ils n'osent pas toujours en parler, ils ont peur de déranger, ça fait peur. Alors que ce soit suite à un cataclysme naturel, à une guerre, à un génocide, à une détention en camp de concentration, des personnes ont développé ces diverses stratégies pour s'en sortir. Et ce qu'il y a de très intéressant pour Boris Cyrulnik, une des façons de se sortir de tout ça, c'est de pouvoir le dire. Hein? C'est le récit, être en mesure d'en parler. Alors, je pense à cette personne qui découvre, après 25 ans, que le père qu'il adorait, ou dont il adorait la mémoire, qui avait été fusillé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il voyait comme un héros, ben, quelqu'un lui apprend un jour que son père, ben, c'était un collabo. Alors, évidemment, ça change toute sa vie et il faut donner un sens à ces choses-là. Il va nous parler, par exemple, dans son ouvrage de cette jeune Rwandaise qui, un soir, en rentrant de l'école, je m'excuse d'être un peu brutal, mais découvre la tête coupée de sa mère sur la table de la cuisine. Et elle sait que c'est un voisin, après coup, qui a fait ça, mais elle va avoir la chance, elle.
Oh, excusez-moi, on a failli vous perdre. Je pense qu'il faudrait que les petits lutins de Noël, là, c'est fini, la Noël, là. C'était il y a deux semaines, là. Alors, il faudrait peut-être qu'ils aillent se coucher. Excusez-nous, on a été interrompus. Reprenez, c'était fort intéressant ce que vous disiez. Je vous rappelle que je m'adresse à André Vincent qui nous parle du livre de Boris Cyrulnik, autobiographie d'un épouvantail.
Donc, je ne sais pas à quel moment on m'a perdu ou on a été coupé, mais j'ai
au moment de la tête, malheureusement, je suis obligé.
Oui, ben, c'est ça. C'est peut-être parce que c'était justement un peu brutal, mais il y a cette jeune fille qui découvre la tête coupée de sa mère, cette jeune Rwandaise, quand elle revient de l'école. mais qui va avoir la chance par la suite d'être prise en charge dans un presbytère, puis après ça par des religieuses qui vont l'éduquer, et elle raconte comment elle va s'en sortir. Mais pour le faire, à un moment donné, elle découvre que pendant très longtemps, elle a dû se taire, même si elle a besoin d'en parler, parce que vous comprenez bien que quand on est dans une fête de famille, une rencontre sociale, se met à parler de telles choses, j'allais dire en bon québécois, ça coupe un peu le party.
Ben oui, c'est sûr.
Donc, le livre de Boris Cyrulnik est tout plein de ce genre de situation-là.
Juste en quelques mots pour conclure, André, une personne blessée en ce moment, pour une raison ou pour une autre, qui tombe, qui découvre ce livre, est-ce que ce livre va l'aider, va lui ouvrir les yeux? Est-ce qu'elle peut trouver des réponses là-dedans?
Je crois que oui, ça peut aider. Et je faisais le lien, moi, avec les gens que j'ai entendus s'exprimer il y a quelques semaines à l'occasion du 25e anniversaire du massacre de Polytechnique. Et on a vu des personnes, justement, qui ont pu, en lisant, mais en se racontant par la suite, arriver à cette résilience-là. Vous me permettrez de vous citer une phrase qui m'a bien frappé dans ce livre. Cyrulnik nous dit « Quand on arrive au monde, on pourrait être tout, mais pour devenir quelqu'un, il faut renoncer à tous les autres qu'on aurait pu être ou qu'on aurait pu devenir.
»
Alors, je pense que ça résume bien le message qu'il veut nous passer.
Et je vous remercie beaucoup de nous l'avoir partagé, André Vincent du SQLA, qui nous présentait Autobiographie d'un épouvantail de Boris Cyrulnik, que je vous appelle rapidement Cyrulnik. André, on se retrouve bientôt.
Ça me fait plaisir et bonne année à tous.
Merci beaucoup, André Vincent. Merci, au revoir.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Et ce sont des retrouvailles, ce qui nous concerne. On ne vous dira pas depuis combien de temps, parce que, comme disait Aznavour, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Bonjour Pascal Navarro.
Bonjour Clotilde Seille.
Pascal, chroniqueuse, journaliste, on vous entend, on vous lit, on vous voit à la télévision, notamment avec Madame Bazot, etc.
Oui.
Et pour vous, là, vous baignez dans un monde littéraire.
Oui.
On vous connaît aussi comme quelqu'un qui est une féministe. Quelqu'un de convaincu, quelqu'un qui travaille, qui écrit beaucoup aussi pour la cause féminine, pour la condition féminine, pour la place des femmes en politique et tout ça. Je suis tout de suite allée vérifier quand vous avez accepté de venir. Je me suis dit, pourvu qu'on ait un ou deux ou trois essais, puisque vous en avez écrit trois.
Oui.
On en a un. On a au moins pour en finir avec la modestie féminine.
Je suis déjà pas mal impressionnée.
C'est impressionnant.
Franchement, là, oui. Je me pince encore, moi, que ces livres-là sont publiés, puis que des gens les lisent, et puis des gens les lisent.
Mais absolument,
c'est formidable.
Absolument.
Ouais.
Alors donc, lui, il est là, il est disponible au SQLA. Il a été enregistré par Vues et Voix, qui à l'époque s'appelait La Magnétothèque. Et j'ai été à la fois surprise et pas surprise par votre choix. Parce que quand je vous ai dit, bon voilà, il faut nous parler d'un livre que vous n'avez pas écrit, que vous avez envie de partager avec nous, vous êtes arrivé avec le premier tome d'une saga. Nous qui avons eu Madame Tremblay-Dessiambre il y a quelques semaines à cette émission-là, ben, on aurait pu aussi parler et avoir Suzanne Aubry. D'ailleurs, vous m'avez donné une idée et je vais l'inviter. Vous nous parlez de Fanette.
Oui. Vous voulez que je vous en parle là?
Oui, bah parce que je voudrais savoir, entre autres, pourquoi c'est ça?
C'est assez simple et logique avec ce que vous venez d'expliquer. C'est-à-dire que ça parle d'une jeune fille, bon, c'est à travers son personnage, en fait, elle et sa sœur, qui se retrouvent en Nouvelle-France, en fait. Ça se passe au 19e siècle, et puis elles viennent d'Irlande, elles ont fait la traversée. Fait que déjà, juste l'explication de la traversée, c'est une leçon d'histoire, une leçon de bateau, là, de traversée maritime, d'histoire de la médecine. Enfin, tout se retrouve en si peu de pages.
C'est une aventure humaine, déjà,
au départ. Mais enfin, c'est quand même fastidieux. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a déjà tout ça. Moi, j'aime bien les livres où il y a de l'encyclopédie, où on apprend plein de choses, où on s'en va dans plein de directions. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien mené. Au contraire, elle raconte très bien.
C'est ça.
Et moi, j'aime quand on me raconte bien des histoires. Et honnêtement, j'avais très hâte de retrouver mon livre le soir, ou enfin quand je lisais, parce que j'avais l'impression de retrouver une famille et j'avais envie de savoir ce qu'il allait leur arriver. Et puis, à travers le personnage de Fanette et de sa sœur et de sa tante, enfin des femmes de cette histoire, On retrouve aussi beaucoup des sujets qui m'intéressent, c'est-à-dire le statut des femmes c'est à l'époque. Et franchement, c'est très bien documenté et c'est très révoltant. On ne se rend pas compte aujourd'hui de tous les progrès qui ont été accomplis. C'est vraiment...
Qu'on regarde souvent, malheureusement, ce qui nous manque, mais il y a des fois où ce serait bien aussi qu'on regarde tout le chemin parcouru.
Puis il faut toujours prendre de la perspective, parce que sinon, d'abord, on devient pessimiste, parce qu'il n'y a rien qui va se faire vite. Et puis, parce que quand on met les choses en perspective, et les romans historiques permettent souvent de faire ça, on mesure beaucoup de notre évolution, puis sur le plan des droits des femmes et de l'égalité. Puis bon, mais c'est plus que ça, c'est aussi comment on était une femme à l'époque, comment on était un homme, et dans quelle classe sociale, et qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que vous me décriviez comme une féministe, mais je suis surtout une égalitariste. Ouais, et quand je suis devenue égalitariste, je dis ça comme si c'était une révélation, non, mais je veux dire, un jour, j'ai réalisé que... c'est bien beau de parler d'égalité des hommes et des femmes, mais tous les hommes ne sont pas égaux entre eux. Et toutes les femmes non plus. Enfin, alors là, tout ça nous amène dans toute une réflexion. Donc, vous voyez, un roman, ça me fait penser à un milliard de choses. Et puis, ça s'inscrit tout à fait dans les questions que je me pose, dans mes réflexions.
Si vous nous le permettez, je voudrais vous faire écouter un petit extrait.
Avec grand plaisir.
Tel qu'il a été lu ici par une bénévole de chez Vues et Voix. Alors, on se replonge au cœur du 19e siècle.
Malgré une chaleur humide qui semblait avoir mis une chape de plomb sur la ville, Fanette décida de se rendre à pied jusqu'au refuge du bon pasteur. Elle savait qu'Emma et Eugénie y consacraient tous leurs après-midi. Elle en profiterait pour rendre visite à Rosalie, car le parloir était ouvert aux visiteurs le dimanche. « Fais atteler la voiture », lui suggéra Philippe en l'accompagnant vers la porte. Fanette le taquina. « Je suis enceinte, mais j'ai encore des jambes pour me déplacer. La rue Saint-Louis est à deux pas. » La silhouette sombre du notaire se profila derrière le jeune couple. « Vous voulez sortir seule dans votre état ?» dit-il, la mine sévère. Elle se tourna vers le notaire, contenant mal son irritation. « Attendre un enfant, ce n'est pas une maladie. » Elle franchit le seuil, sentant le regard du notaire sur elle. Ce fut avec soulagement qu'elle referma la porte et s'éloigna sur le trottoir en bois. Elle supportait de moins en moins l'obsession des convenances de son beau-père, sa manie de toujours surveiller ses allées et venues. S'il trouvait inconvenant qu'elle sorte seule dans son état, comme il le disait, quelle serait sa réaction s'il apprenait que sa sœur aînée, dont il ne soupçonnait même pas l'existence, avait eu un enfant illégitime? Jamais, au grand jamais, le notaire ne devait apprendre la vérité.
Et elle s'éloigne.
Mais vous savez, on entend beaucoup les bruits des chevaux au début, ça fait rigoler. Mais en même temps, c'est très important parce qu'elles sont toujours en train de faire atteler leurs chevaux parce qu'elles sont toujours en déplacement. Et c'est surprenant de voir à quel point ces femmes, notamment la tante de Fanette, Emma, est très autonome. Et elle n'attend pas qu'on vienne la chercher. Elle sort, elle va chercher les chevaux, puis envoie, elle y va. C'est une femme une femme d'aujourd'hui, on pourrait dire, au niveau du tempérament. Et puis, c'est vraiment rigolo parce que je trouve que ça a tout à fait sa place. C'est vrai qu'il y a toujours des chevaux.
Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça m'est venu comme ça. Je voudrais quand même dire à nos auditeurs que malheureusement, vous n'aurez pas les chevaux. C'est moi qui m'amuse toujours à enrubaner un petit peu tout ça parce que quand ça me donne une idée, comme ça, tout d'un coup, je m'amuse.
Bien vu.
Mais imaginez, on souhaiterait avoir le temps pour chaque livre de pouvoir faire un... enrubanné comme ça, mais malheureusement, vous imaginez bien que déjà, il faut que vous sachiez, Pascal, que ça prend beaucoup de temps entre le moment où il sort et le moment où il devient disponible.
Mais c'est ce que je veux dire, c'est que ça rejoint la façon dont on lit.
C'est ça.
Parce que quand on lit et qu'on voit ça, on les entend.
On les entend.
C'est pour ça que je vous dis ça.
Exactement. Pascal, vous avez écrit 3 essais.
Oui.
Vous baignez dans le milieu littéraire, les bouquins, vous en mangez, vous en lisez, vous en parlez régulièrement. Quand est-ce qu'on va avoir un roman, par exemple, qui sera signé Pascal Navarro?
Ça m'étonnerait. J'ai pas du tout la fibre de la fiction. Je suis, moi, très passionnée par les essais. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les essais, d'ailleurs, de tout genre, pas seulement des essais politique, ou puis j'en lis pas beaucoup, j'en lis pas assez, je devrais en lire plus que ça, mais des fois je lis des trucs tellement pointus que personne s'imagine qu'on peut lire ça. Mais en tout cas, ça fait, c'est pas grave. Tu sais, un truc sur la parité, ou je sais pas, moi, sur une bataille politique des femmes syndicalistes à la fin du 19e siècle, je sais pas, dans telle ville, bon, c'est très pointu, mais moi, ça me permet de développer une réflexion sur quelque chose. Ça, j'ai l'air bien savante, là, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Cela dit, non, j'aime beaucoup les essais. J'ai déjà essayé d'écrire un roman, mais je n'ai pas la fibre. Tu sais, on le sait, hein, quand on l'a, on ne l'a pas. Autant j'ai besoin d'écrire des essais et mes réflexions, des trucs un peu pamphlétaires ou des analyses ou des recherches. Autant le roman, ça ne me vient pas, mais alors pas du tout.
Pas du tout.
Non.
Et c'est... pourtant, votre métier vous oblige à en lire, par contre, beaucoup quand
oui,
même.
Oui, mais premièrement, quand je lis des romans, quand je vous ai parlé de Fanette, je vous ai tout de suite parlé d'encyclopédie. Mmh. Et quand je lis des romans, je les lis pour beaucoup pour le contenu, et puis ça fait partie de l'intérêt. Et il a fallu que je me dompte pour comprendre. Quand j'ai fait mes études littéraires, j'ai compris qu'il y avait aussi une esthétique. Mais au départ, j'y allais plus pour le contenu que pour le contenant. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je vous dis ça, puis peut-être que dans 20 ans, je vais écrire un roman. J'en sais rien, mais pour le moment, non, c'est pas... Plus, vous allez voir un essai bientôt, par exemple.
Parce que vous savez, j'avais... Ah oui, c'est vrai?
Oui.
Ah, un autre?
Oui, oui, oui.
Est-ce qu'on peut avoir le...
Le titre, je ne le sais pas, mais ça va porter sur la parité et la mixité. Égalitaire.
Alors là, on va
c'est
mettre...
C'est original, hein?
On va mettre tout de suite. Non, mais écoute, de toute façon, c'est votre cheval de bataille.
C'est mon affaire, c'est ça.
C'est ça, c'est votre affaire, comme elle dit. Alors écoutez, on va tout de suite le faire savoir de l'autre côté. Alors, et on va leur dire, allez hop, dès que celui-ci arrive, pour ne pas que nos auditeurs aient trop longtemps à attendre. Pascal Navarro, c'est bonheur de vous avoir ici, d'avoir pu m'entretenir avec vous. Je voudrais rappeler que de Pascal Navarro à nos auditeurs, nous avons un essai de Pascal pour en finir avec la modestie féminine que vous pouvez d'ores et déjà vous procurer via le SQLA par BANQ. Et puis, Pascal Navarro est venu nous parler aujourd'hui de Fanette, de Suzanne Aubry, cette saga, cette famille irlandaise. Et puis ce sont toutes ces vies de femmes dont elle est venue nous parler. J'en perds le bout de mon stylo, d'où le tic-tic-tic que vous avez, parce que je parle toujours beaucoup avec mes mains. Alors, en principe, à la télé, ça se voit, mais à la radio, ça ne se voit pas. Mais là, voilà, vous le savez. Alors, voilà. Alors, Pascal Navarro, merci beaucoup d'être venu, Pascal.
Merci
ça n'était
à vous.
Que du bonheur. Merci.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
Alors voilà, début d'année, je me suis dit, bon, les résolutions, tout le monde en parle, on va perdre 20 livres, on va porter je ne sais pas combien de livres, on va aller au gymnase, on va aller tout ça. Hein. Moi, tout ça, ça me fait... Et puis, à un moment donné, il y a quelques semaines, c'était au mois de décembre, je croise ici, dans les couloirs de chez Vues et Voix, Thomas d'Ansembourg. Son nom ne vous dit peut-être rien comme ça, a priori, mais cet homme qui a été avocat et conseiller juridique s'est fait connaître en 2001 lorsqu'il a sorti un bouquin qui s'est vendu alors comme des petits pains et qui s'appelait et qui s'appelle toujours « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et lorsque Marianne Paquette, que vous connaissez bien, votre animatrice ici aussi chez Vues et Voix, chez Canal M, je vais finir par le dire, à la radio de Canal M, lorsqu'elle me l'a présenté, je lui ai dit « Mon Dieu ». Pas cesser d'être gentil, soyez vrai, mais oui, un type absolument charmant. Alors j'ai demandé à Marianne, je lui ai dit, quand tu auras fini ton entrevue, parce que j'aurais voulu l'accueillir ici, mais évidemment, il est reparti dans sa France natale. Alors j'ai eu envie de vous faire entendre un extrait de cette émission où M. d'Ansembourg s'exprime tellement bien sur ce sujet. Ben, évidemment, il le connaît bien, il l'a écrit, mais en plus, c'est vraiment à lui son cheval de bataille. On parlait tantôt de la place des femmes avec Pascal Navarro et l'égalité homme-femme et homme d'ailleurs entre les individus, mais lui, son cheval de bataille, c'est ça. C'est un type qui aussi a été très, très touché par différentes approches psychothérapeutiques, notamment, surtout, par ce qu'on appelle la PNL. On va en parler un petit peu plus tard à l'émission. Et aussi la communication non violente. Et par la communication tout court. Voilà un homme qui dit, quand vous avez envie de dire quelque chose, dites-le. Si vous n'avez pas envie d'aller au barbecue organisé par votre cousin parce qu'à chaque fois vous vous y ennuyez, pourquoi vous allez aller au barbecue? Non, je m'ennuie à ce barbecue. Alors, c'est de tout cela qu'est fait ce livre, mais je me tais parce que lui, il en parle tellement mieux. Alors, on écoute Marianne Paquette qui animait l'émission et qui s'entretient avec Thomas d'Ansembourg, celui qui a écrit « Cessez d'être gentil, soyez vrai ».
Cessez d'être gentil, soyez vrai. Je me suis interrogée beaucoup sur la signification des termes. Quand vous dites cesser d'être gentil, c'est pas d'être poli ou d'être courtois, c'est pas ça le terme que c'est pas ça que vous avez voulu dire.
Ah non, je ne vise bien sûr pas la vraie bonté, la vraie générosité, qui sont des qualités que je chéris, je pense, comme chacun d'entre nous. Ce que je vise, c'est la gentillesse de façade. Vous savez, la gentillesse qui nous fait dire tout va bien, alors qu'au fond on pense rien ne va plus. Mais j'ose pas le dire parce qu'on va pas m'aimer si je dis ça. C'est la gentillesse qui nous fait dire oui, on reviendra avec plaisir chez vous, alors qu'au fond on pense à non plus jamais chez eux. Et au fond, nous avons pris cette habitude de dissimuler et au fond, si on met les mots juste, de mentir, de traverser la réalité. Et je vous invite à voir que si nous sommes choqués de voir dans le monde la langue de bois, l'hypocrisie, la trahison, ça nous choque profondément, eh bien, il peut arriver que nous y contribuions nous-mêmes à notre petit niveau. Alors, devant le chaos du monde, voulez-nous ajouter encore notre propre chaos, notre propre confusion? Moi, je ne ferai pas ce choix. J'ai besoin d'une écologie relationnelle qui commence par moi, là où je suis, là où je vais, avec qui je rencontre, je suis vrai. Je tiens à être authentique, à être sincère et à apporter cette parcelle de clarté à ce monde qui est effectivement très souvent confus.
Mais trouver les mots, c'est pas toujours simple. On connaît tous des gens autour de nous qui sont extrêmement éduqués, extrêmement articulés, qui viennent d'une bonne famille, tout comme vous, mais qui ne trouvent pas les mots, qui n'arrivent pas à exprimer leurs propres sentiments, ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. On fait comment pour arriver à exprimer notre nature et ce que l'on ressent vraiment?
On apprend, comme toute chose. Quand vous avez découvert l'informatique, vous ne saviez pas ce que c'était un clavier, un écran, un système, un logiciel. Maintenant, vous jonglez sur l'informatique. Quand vous avez, à 17-18 ans, vous êtes assis au volant d'une voiture, vous ne saviez pas comment ça marche, sur quoi on pousse, sur quoi on tire. Maintenant, vous conduisez depuis des années, c'est complètement intégré, vous ne pensez même plus à ce que vous faites. On apprend. On apprend le lien avec soi, on apprend à fréquenter l'humain en soi. Et ce sont des apprentissages qui ne sont pas encore répandus. Je suis convaincu que dans les années qui viennent, du fait du métissage de populations que nous rencontrons, toutes sortes de cultures qui se croisent, les notions de connaissance de soi feront partie de l'apprentissage de base à l'école. Avec lire, écrire et calculer, on va apprendre à connaître l'humain en soi. Parce que c'est la seule façon de comprendre l'humain en l'autre. Et donc cet apprentissage de la relation à soi et à l'autre va faire partie des fondamentaux de l'éducation, parce qu'on a absolument besoin de ça pour bien vivre. C'est un travail que j'appelle d'intériorité citoyenne.
Oui, oui, ça revient
également.
C'est
du civisme, au fond, que d'apprendre à bien se connaître pour se placer au bon endroit.
Il s'appelle Thomas d'Ansembourg. Il s'entretenait avec Marianne Paquette et il a écrit... tout d'un coup, j'ai un blanc de mémoire terrible sur le livre. Aidez-moi, cessez d'être gentil. Merci beaucoup. Soyez vrai. Sans quoi, il paraît qu'il serait devenu un pauvre juriste qui s'emmerde et serait resté un pauvre célibataire coincé dans un célibat défensif. Ce sont ses mots à lui. C'était mon classique du jour, puisque quand même, quand on vend 500 000 livres d'un bouquin comme ça, je pense que le livre devient un classique.
Vous écoutez À Livre Découvert avec Clotilde Seille et ses invités.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés? Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est morte. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, les emporta. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille, qui n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre, au temps d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mis à honte, en quelle manière. Sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Le mal ne s'est pas seul venu. Tout ce qui m'était à venir m'est avenu. Ces pauvres mémoires, m'a Dieu donné le roi de gloire, et pauvre rente, et droit au cul qu'ambie je vante, le vent me vient, le vent m'évente, l'amour est morte. Ce sont amis que vent emporte. Et il vantait devant ma porte les emportards. L'espérance de lendemain, ce sont mes fêtes.
Chapitre 4. Le bénévole du jour.
Et pour introduire le bénévole du jour, j'avais choisi cette chanson « Pauvre Rudebeuf » qui avait été immortalisée par Léo Ferré et que nous écoutions à l'instant sur Canal M par Philippe Léotard. Je vous rappelle que c'est Clotilde Seille en votre compagnie. Vous êtes à l'émission Un livre découvert et comme toutes les semaines, et une fois n'est pas coutume, c'est la première de la saison et c'est la première fois qu'il sera des nôtres et pas la dernière, j'ai invité Thibaut Temmermann.
Bonjour Clotilde.
Ça va bien Thibaut?
Ben, ça va bien et toi?
Bien,
et
bien, bien.
Bonne année à toi et à tous.
Ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, on les prend, on les veut. Thibaut, il y a quelques mois, vous avez lu un livre de Anna Shevchenko qui s'intitule « L'ultime partie ».
C'est exact.
Et vous avez eu envie de nous en parler.
Ben oui, tout à fait, parce que j'avais lu, quand on a fait la liste un petit peu des livres que j'avais lus, j'avais lu le dernier John le Carré, mais je me suis dit, mais les gens connaissent le John le Carré. Ouais. Et justement, j'avais lu juste après un autre thriller, un petit peu, où il est question d'espionnage, d'histoire, et j'avais très envie de vous parler donc de l'ultime partie d'Anna Shevchenko, qui est parue aux éditions Les Escales en 2012. Bon, c'est une traduction, hein, en tout cas. Mm-hmm. Et c'est son deuxième roman,
Bonne.
Cette demoiselle. Oui, bonne traduction. Correct. Oui, tout à fait. Bonne traduction.
Bon, d'accord.
C'est son deuxième roman, donc comme je disais, un thriller historique, mais dedans, il y a les petites histoires aussi. C'est ce qui fait aussi tout le charme de ce livre qui a été nominé pour plusieurs prix. L'auteur, c'est important de le mentionner, elle sait, parce qu'elle sait de quoi elle parle, elle est négociatrice internationale, donc elle sait ce qu'est la diplomatie. Et puis, bon, c'est pas négligeable, elle est heptalingue. Elle parle cette langue. Donc, il y a toujours des jeux de mots dans plusieurs langues dans le roman. C'est assez agréable à lire. Et un roman, d'ailleurs, qui est à quatre voix. Mm-hmm. Et donc, en fait, le roman, et c'est pour ça que la chanson était vraiment choisie à propos que sont mes amis devenus. Eh bien, tout simplement, un matin... Trois personnages vont recevoir tout simplement un courrier qui est écrit comme suit. « Messieurs, nous n'avons pas terminé notre partie. Rendez-vous sous l'horloge de Waterloo le dimanche 23 septembre à 10h30. »
Point.
Et donc, évidemment, ils savent très bien à quoi cela fait référence. Et les personnages se disent... Est-ce que je vais y aller ou je ne vais pas y aller finalement à ce rendez-vous
mais
qui est donné finalement.
On ne sait pas qui sont ces quatre personnages-là.
Et on le découvre petit à petit. Et alors là, l'auteur joue un peu sur le nom. Elle les appelle les Tonys. C'est-à-dire que Tony, c'est la personne qui n'est pas forcément la plus belle, la plus intelligente, mm-hmm. mais qui a un charisme incroyable, qui a cette capacité de mobiliser les foules, de mobiliser les gens autour de lui. Et c'est lui le meneur de jeu, c'est lui qui envoie les lettres en se disant Est-ce qu'ils vont seulement accepter? Mais bien sûr qu'ils vont accepter. Ah, ils ne peuvent qu'accepter de retourner dans mon jeu. T'es comme Tube, le métro de Londres, comme taxi, comme train, comme Tipeee, le nom du conseil qu'ils se donnaient, un petit peu un genre de cercle des poètes disparus, ou comme Odessa, pour Lévi, qui est un docteur juif, qui est devenu docteur juif, qui à l'époque était un petit étudiant intellectuel un peu gros, ignoré par les universitaires, les autres collègues universitaires. NY New York comme Max, le musicien un peu rêveur, et S comme Strasbourg pour John T, qui est devenu député européen, mais qui à l'époque était l'as du placage.
Okay. Bon.
Et c'est des personnages qui n'ont absolument rien en commun, si ce n'est qu'un jour, Tony leur a dit « Est-ce que tu as du temps à m'accorder ?» Et il les a emmenés dans sa bande pour des aventures, pour des petits jeux, des petites énigmes.
Ça, c'est quand ils sont étudiants.
Ils sont étudiants.
Ah, okay, donc,
et là, c'est
ça.
Même finalement avant même le récit du livre que l'on découvre petit à petit dans les toutes premières pages. Et on se rend compte qu'en fait, le jeu a cessé à partir du moment où il y a eu un drame qui s'est déroulé pendant l'un de ces jeux. Et ils se retrouvent 25 ans plus tard pour reprendre le jeu, racheter leur faute. Et pour racheter leur faute, ils vont devoir, et on le comprend en fait parce qu'on suit à chaque fois le parcours des quatre personnages, mais eux, évidemment, ils ne savent pas ce que recherchent leurs collègues.
Okay.
C'est ça qui est intéressant. ils vont devoir lever le voile sur une page très sensible de l'histoire, à savoir la conférence de Yalta en février 1945, lors de laquelle Churchill, Roosevelt et Staline ont partagé l'Europe et de ce faisant partagé le monde. C'est assez intéressant de se dire que, comme je disais, le livre a été écrit en 2012, c'est-à-dire avant la crise de Crimée, pour l'appeler pudiquement. Et donc, on se rend compte bien, au fur et à mesure de la lecture, de toutes les implications effectivement qu'a eu cette conférence de Yalta et qu'eux-mêmes vont devoir découvrir.
Autrement dit, vous me parlez de, bon, là, on est dans l'histoire, ok, amitié, machin, on est dans quasiment presque un thriller,
oui.
Et on est beaucoup dans l'histoire du monde, j'allais dire l'histoire de France, mais que dis-je, l'histoire du monde.
Oui, oui, tout à fait, c'est vraiment la recherche. Tout ce qui me plaît, évidemment, c'est pour ça que j'étais très, très enchanté de pouvoir lire ce livre. Et donc, bah, par exemple, comme je disais, Lévi, qui était cet étudiant immigré qui est devenu médecin, lui, retourne sur les lieux de son enfance. Et d'ailleurs, ça donne parmi peut-être les pages les plus belles, les plus touchantes de l'histoire, lorsqu'il revient sur les traces de son enfance, de ses ancêtres, à Odessa, donc en Ukraine. Et finalement, l'auteur, elle explique que l'une des raisons pour lesquelles elle a écrit ce livre, au-delà de toute la question historique, c'est parce qu'elle est fascinée par la manière dont l'enfance et les relations qu'on noue pendant celle-ci, les erreurs que l'on peut commettre également pendant notre enfance, façonnent l'adulte que l'on devient. Et c'est justement... tout le cœur du livre, ils ont changé depuis ces 25 dernières années. Et ce jeu encore va les changer encore, puisqu'ils vont devoir retourner sur les traces de leur enfance. Donc il y a vraiment, le livre joue sur les deux tableaux. Il y a peut-être une précision très importante que j'ai oublié de préciser, je mentionne très vite. Max, le musicien rêveur, est décédé entre-temps.
Ah.
Donc, et c'est pour ça que le livre, en fait, la couverture du livre dit « Même règle, un nouveau joueur et des enjeux historiques ». C'est la sœur de Max, Alex, qui prend le relais de toute la bande.
Personnage féminin, le bazar commence.
Mais justement, ils avaient un petit peu tous des vues sur cette fameuse Alex, donc ils ne sont peut-être pas si mécontents que cela de la retrouver, même s'ils sont bien sûr tristes que leur ami les ait quittés.
On manquerait de temps pour diffuser l'extrait, mais je suis sûre que vous en avez un à nous lire peut-être.
Parce qu'il
nous reste combien de temps, mon ami? À peu près une minute, oui. Remarque, c'est pas grave. Alors, on va l'écouter, l'extrait, ça fait rien. Je vais récupérer ça après dans l'émission.
Que sont mes amis devenus? Que j'avais de si près tenu et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort.
On voit trop de gazon sur la première photographie.
trop de ciel. Et les trois garçons qui regardent l'objectif font plus petits et plus jeunes que leurs 16 ans. C'est le dernier jour d'école. Les cravates sont desserrées, les blazers retirés, mais les sujets ne sont pas détendus pour autant. Il y a une raideur dans la façon dont l'un passe son bras autour des épaules d'un autre, la grippant fermement. Une ombre dans le regard brun du troisième, dans ses sourcils haussés, comme s'il essayait de poser une question, qui leur donne un air inquiet et nerveux. Je ne suis pas sur la photo. Je prends un instantané du jour qui marque la frontière entre l'avant et l'après dans nos vies. Ils l'ont peut-être dissimulé tout au fond d'une boîte dans un coin de leur grenier, l'ont peut-être déchiré, roulé en boule, réduit en miettes, il y a une éternité, mais il reste gravé dans leur mémoire comme il l'est dans la mienne. Le second cliché est l'un de mes biens les plus précieux. Il ne s'agit ni d'une photo officielle, ni d'une de celles publiées en première page des journaux, dans les manuels scolaires et ouvrages de référence, ni de celle qui trône sur le bureau de mon père. Elle a été prise il y a plus de 60 ans par une personne de petite taille, postée derrière la première ligne de photographes.
Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte.
Voilà un extrait de ce livre dont l'ami Thibaut Temmermann, de décorcher ainsi votre nom, cher Thibaut, est venu nous parler. L'ultime partie de Anna Shevchenko, je vais quand même vous épeler ce nom un peu ukraino-barbare, S-C-H-E-V-C-H-E-N-K-O, non ?
Non, S-H-E-V-C-H-E-N-K-O, il n'y a pas de premier C.
Ah, c'est S-H, et pas S-H, S-H. D'accord, S-H-E-V-C-H-E-N-K-O. Voilà, puis Anna comme Anna avec deux N. Thibaut, merci beaucoup.
Un grand merci pour
vous
l'extrait.
Vous vouliez rajouter quelque chose, non ?
Merci pour l'habillage et l'extrait.
Non, bah non, bah de rien, c'était bien peu de choses, vous savez. Thibaut Temmermann qui reviendra nous voir, bien sûr, bénévole ici chez Vues et Voix.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
Et ça, c'est pour vous annoncer celui qui viendra la semaine prochaine, le bénévole du jour, qui sera le bénévole de la semaine prochaine, qui sera Jacques Tremblay, qui va venir nous parler la semaine prochaine d'un livre qui s'appelle « Le feu de mon père », qui a été écrit par Michaël Delisle. Le résumé, je pense que c'est ce qui fait d'ailleurs la quatrième de couverture. Quand Michaël Delisle était enfant, ses oncles, c'est-à-dire les amis de son père, ne disaient pas « armes », mais « morceaux », ou de façon plus métonymique « feu ». J'avais mis mon feu dans le coffre à gants, ou alors il s'est débarrassé de son feu, oublie pas ton feu. Et dans ce poignant récit, nous dit-on, le poète, parce qu'il est beaucoup question, c'est beaucoup écrit sur un style à la fois, oui, c'est de la prose, mais c'est aussi beaucoup de poésie, bien le poète se remémore son père, ce bandit devenu chrétien charismatique, l'homme violent qui ne parlait plus que de Jésus, l'homme détesté, qu'on ne peut faire autrement qu'aimer en dépit de tout. Et la question qui revient éternellement est celle-ci, où va le feu ? Il y a ce petit passage-là, et la question me revient au chevet de mon père. Je passe mon doigt sur son vieux tatouage de marin, une encre avec les lettres MN pour Merchant Navy, M-E-R-C-H-A-N-T, ouais. Merchant, bon... C'est pas si mal que ça, la seille. Et ses cellules sont aussi les miennes. Je reconnais la parenté organique et l'odeur qui monte de son corps, un parfum de vieux drap gorgé de phéronome. Il y avait un article, une critique dans la presse où l'on disait le 10 mars 2014, sous la plume de Chantal Guy, Michaël Delisle, écrivain discret, ne s'est jamais autant dévoilé que dans ce qu'il considère comme son livre le plus hybride. Le feu de mon père. J'ai bien hâte qu'il vienne nous en parler de ce livre la semaine prochaine, Jacques Tremblay. En attendant, je vous propose un court extrait du livre tel qu'il est lu par Jacques Tremblay.
Avril est de retour, la première des roses de ses lèvres mi-closes. Rit au premier beau jour, la terre bienheureuse s'ouvre et s'épanouit, tout aime, tout jouit. Hélas, j'ai dans le cœur une
précipite d'un livre est une étape jubilatoire. Trouver la phrase qui fasse office à la fois d'armature et de condensé est une recherche trépidante. L'exergue est là pour placer une caution, emprunter le sceau de papa. Les hommes citent des hommes. Mais l'exergue reste décoratif, c'est un marchepied textuellement inutile. La dédicace, quant à elle, renvoie l'ascenseur aux amis ou donne l'indice d'une mission secrète qui exclut le lecteur. Le vrai plongeon, c'est l'incipit. Mon incipit pourrait être le suivant. De ma vie, je ne me souviens pas d'avoir été léger. C'est vrai. J'ai toujours eu, du plus loin que je me souvienne, la mort dans l'âme. Ce joug, cette entrave à l'insouciance, m'est tellement intime que j'ai fini par y voir une forme de lucidité. La conscience a pris cette posture chez moi. Je suis triste comme je vois clair.
Hélas, j'ai dans le cœur une tristesse affreuse.
Ah non, écoute. Hein? C'est absolument magnifique. J'ai hâte qu'on entende ce que Jacques Tremblay aura à nous dire de ce livre « Le feu de mon père » de Michaël Delisle, qu'il a adoré lire, m'a-t-il dit. Ce sera pour la semaine prochaine.
Des nouvelles et des livres.
Des nouvelles et des livres, oui. Qu'est-ce que j'ai relevé ? Bon, remarquez, ça fait déjà quelques semaines, mais je suis un petit peu perdue dans mes papiers, mais je vais me retrouver. Oui, voilà. On célébrait au début du mois de décembre le bicentenaire de la mort du marquis de Sade. Je me dis, c'est pas possible, je ne peux pas passer à côté de cela. Surtout qu'il y avait à ce moment-là un excellent papier de Julie Paquette, spécialiste de Sade, professeure à l'Université de Montréal. C'était paru dans Le Devoir du mercredi 3 décembre, voyez-vous. Et alors, elle dit des choses formidables que j'ai très, très envie de vous lire. Elle dit « On célèbre cette année le bicentenaire de la mort, c'était donc le 2 décembre dernier, du marquis de Sade. Il est mort en 1814. Le testament de Sade précisait qu'il désirait être enseveli anonymement dans une fosse où l'on planterait des glands afin que sa trace s'efface à jamais. » L'objectif semble raté, quoique de cet auteur dont on connaît surtout les romans clandestins, La philosophie dans le boudoir, La nouvelle Justine ou encore Les 120 journées de Sodome, dont le manuscrit avait été perdu lors de la prise de la Bastille, l'on a peu retenu, voire oublié. Le Sade, auteur d'une vingtaine de pièces de théâtre, de contes, historiettes et fabliaux, de romans historiques, de récits de voyage, notamment en Italie, d'opuscules politiques et j'en passe. Le marquis, emprisonné entre autres à Vincennes puis à la Bastille, nous rappelle Julie Paquette, et à l'hospice de Charenton, aura passé plus de 30 années de sa vie en prison. C'est fou, hein ? Et ce, sous trois régimes différents. Critique de la monarchie autant que de la terreur, secrétaire de la section des piques auprès de Robespierre et de Saint-Just, maître de la réforme des hospices et des hôpitaux, auteur d'idées sur le mode de sanction des lois et metteur en scène d'une troupe de fous qu'il fera monter sur les planches de l'hospice où il est détenu, Sade sera non seulement un témoin privilégié, mais aussi un acteur de cette France de la fin du XVIIIe siècle. L'on a beaucoup plus commenté Sade qu'on ne l'a lu, disait Annie Lebrun, grande exégète du marquis et commissaire de l'exposition qui tient lieu en ce moment au musée d'Orsay à Paris. L'une des particularités de l'œuvre de Sade est que tous les philosophes français du XXe siècle ont écrit à un moment donné sur Sade, Blanchot, Bataille, Barthes, Klossowski, Beauvoir, Lacan, Foucault, Lefort et j'en passe, dit-elle. Leur lecture reflète à quelques rares exceptions leur propre position dans le champ des idées. Un conservateur lira Sade comme un conservateur, un monarchiste comme un monarchiste, un libertin comme un libertin, et ainsi de suite. Il y a 2 mois étaient réunis à Winnipeg quelques-uns des plus grands spécialistes de l'œuvre de Sade et lors de leur séjour, les panélistes, délicieuse petite histoire, les panélistes ont fait la visite du musée de Saint-Boniface où l'on apprenait, entre autres choses, l'importance du rôle des sœurs grises au sein de la communauté franco-manitobaine.
Et au terme de la visite, dans la petite chapelle, le directeur du musée demanda ce que ces gens faisaient à Winnipeg. S'ensuit un long silence, puis quelques rires timides, comme quoi il reste bien quelque chose de tabou dans le fait de prononcer le nom de ce monstre de la littérature, Sade. Alors écoutez, on n'a pas énormément de bouquins du marquis de Sade disponibles, mais quand même, vous pouvez trouver La Nouvelle Justine ou Les Malheurs de la Vertu, ou encore La Philosophie dans le Boudoir ou Les Instituteurs Immoraux. Après tout, pourquoi pas se replonger dans l'œuvre de Sade. Moi, j'aime ça une fois de temps en temps. Bon, c'est pas un truc que tu peux amener sur la plage à Cuba, mais quand même.
Quelques nouveautés en rafale.
Vous avez lu du Sade, Thibault ?
Non, que des extraits.
Que des extraits ?
Des extraits.
Ça vous a pas plu ou ça ne vous tentait pas ? C'est pas votre truc ?
Non, je pense qu'effectivement, il faudrait mieux le redécouvrir par ses pièces de théâtre. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant.
Et alors, bon, écoutez, j'ai pour vous quelques titres en rafale à vous proposer. C'est évidemment, on parle là de nouveautés, ça vient de sortir, c'est tout chaud, tout beau, au SQLA. Alors, je voudrais vous citer Javotte de Simon Boulris que nous avons reçu ici. La petite Javotte, nous sommes dans une petite ville au sud de Montréal et c'est une histoire qui révèle à la manière d'un journal intime les états d'âme d'une adolescente qui se trouve moche, qui se trouve abjecte. Elle s'appelle Javotte Trémaine. Elle souffre d'avoir à supporter une mère froide et une sœur docile qu'elle manipule à sa guise, et tout cela bien avant que ne débarque Cendrillon dans leur vie. Je prendrai bien un petit peu de musique, mon ami, parce que je sens poindre une légère toux qui va me déranger un peu. Alors, je reviens à cette Javotte. Peut-être une critique ici, une critique de lecteur qui nous dit « Quel talent que ce jeune Simon Boulris, nous l'avions constaté et apprécié dans Martine à la plage. L'auteur, quel talent que ce jeune Simon. L'auteur maîtrise l'adolescence avec brio. Il excelle, dit ce lecteur, dans l'art de montrer les facettes multiples des jeunes. Cruauté, ruse, vulnérabilité, insatiété. » De Katia Gagnon. Katia Gagnon qui a accepté mon invitation et qui sera très très prochainement à cette émission, un livre découvert. Eh bien, de Katia Gagnon, nous venons de recevoir Histoire d'ogre. Katia Gagnon qui avait déjà lancé un premier roman, c'était en 2011, ça s'appelait La Réparation, qui portait sur l'intimidation à l'école. C'est un livre qui est également disponible via le SQLA. Alors, avec Histoire d'ogre, l'histoire se répète. Il y est question d'un agresseur sexuel assassin, alors que le meurtrier de la petite Joleille Campo vient tout juste de faire la manchette. Alors, c'est un autre meurtrier, c'est un autre meurtre. Et c'est exactement cela qui a inspiré la journaliste de La Presse devenue romancière. Elle raconte qu'à l'occasion d'un reportage, elle a rencontré Lucie Valéran, à qui Histoire d'ogre est dédiée, et c'est elle qui lui a parlé de Mario Bastien, l'agresseur sexuel qui avait tué le jeune Alexandre Livernoche en août 2000. Elle avait connu Bastien quand il était jeune et après son incarcération, elle est devenue son ange gardien. Et dans le roman, Bastien est devenu Bellevue et Madame Valéran est devenue la fictive Jeannine Côté. C'est Lucie Valéran qui m'a donné envie d'écrire sur le sujet. Elle voulait qu'on connaisse tous les aspects de la vie de Bastien, reprend l'auteur. Et au départ, j'ai pensé en faire un essai, mais finalement, eh bien, c'est devenu un roman. Un roman dont va venir nous parler très prochainement Katia Gagnon, qui finalement nous raconte une histoire tout en étant bien consciente que la vraie vie est souvent finalement beaucoup plus déroutante que la fiction. Alors, je vous donnerai rendez-vous avec Madame Katia Gagnon. Ce sera d'ici quelques semaines, mais on vous le fera savoir, évidemment, par la radio via quelques auto-promotions. On change complètement de sujet. On s'en va avec Pascal Villelmi, qui vient de sortir « Où vont les guêpes quand il fait froid ?». Le résumé, après des années d'errance sentimentale, c'est une femme qui trouve l'amour auprès d'un homme qui la protégera, et on a envie de dire « enfin ». Parce qu'elle l'a longtemps cherché, cet homme-là, mais malheureusement, 7 mois plus tard, il s'enlève la vie. Le choc est brutal, elle en perd la voix et elle se demande où vont les guêpes quand il fait froid, et ce livre qui raconte sa lente remontée à la surface, vers la lumière, vers ses enfants, vers ses amis, vers la vie qui continue, vers le désir surtout impérieux qui refuse d'abdiquer, vers la peau qui guérit. Où vont les guêpes quand il fait froid, de Pascal Villelmi. Dans la presse, on disait que c'était écrit avec limpidité et simplicité, que ça pêche un peu par le côté conte de fées et quelques maladresses, mais on nous dit aussi que c'est un premier roman très très prometteur, sensible, sensuel et courageux. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus intellectuel, il ne s'en cache pas, il n'écrit pas pour la masse populaire. C'est Monsieur Sergio Coquis qui reprend un de ses personnages du livre Les Saltimbanques qu'il avait sorti en 2001, que nous avons d'ailleurs au SQLA. Il reprend le personnage du mime Macarius Steiner qui s'est suicidé dans le roman en 2001, et là il se demande pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Alors c'est vraiment extraordinaire, mais là c'est touffu, c'est fourni, et il ne me reste plus que 15 secondes pour vous dire au revoir mes amis. J'aurais eu tellement de choses encore à vous dire là-dessus, j'y arrive jamais, je suis frustrée. Je vous souhaite une belle semaine, encore une fois meilleurs voeux, merci à mes invités Pascal Navarro et Thibaut Temmermann et André Vincent, et merci à Jean-Sébastien Laliberté. On se retrouve la semaine prochaine, bonne lecture.